Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Le ministère indonésien des Affaires étrangères priorise la diplomatie économique. Le Congrès a acheté l'Indonésie à l'objectif de développer des produits locaux. L'Indonésie et l'Allemagne développent la coopération dans le domaine de la sécurité. Deux chercheurs de 28 pays se sont réunis à Bogor, Jawa West. Selon M. Puspayoga, le bâti comme l'unification de la nation. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La diplomatie économique est l'une des priorités de la politique étrangère de l'Indonésie exécutée à ce moment, surtout par le ministère indonésien des Affaires étrangères. La diplomatie économique a souligné toutes les activités liées au commerce, le tourisme et l'investissement, ou TTI. Cela a été transmis par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, dans son discours à l'ouverture de la réunion de diplomatie et des chambres de commerce. Maintenir la confiance, renforcement du partenariat, mardi le 4 octobre 2016 à Jakarta.
Economic diplomacy is one of the priorities of Indonesia foreign policy.
La diplomatie économique est l'une des priorités de la politique étrangère indonésienne, une partie de 132 missions indonésiennes à l'étranger, qui engage à faciliter les hommes d'affaires pour faire des affaires en Indonésie. Les mesures prises par le ministère des Affaires étrangères liées à la diplomatie économique et d'assigner tout pour donner rapidement la réponse à toutes les questions ou des choses liées à TTI. La ministre Retno a également déclaré que pendant les deux dernières années, le développement économique dans ce pays était prometteur. L'Indonésie est devenue la plus grande économie en Asie du Sud-Est, avec une croissance d'environ 5% par an et le nombre de la classe moyenne continue d'augmenter. Le Congrès a acheté l'Indonésie qui a tenu du 3 au 5 octobre 2016 à Jakarta invite tous les gens indonésiens à utiliser des produits nationaux. Le chef du mouvement Acheté l'Indonésie, Happy Trenggono, dans une conférence de presse tenue le lundi 3 octobre à Jakarta, a déclaré que culturellement, la mentalité du peuple indonésien n'habite pas d'acheter des produits nationaux. Structurellement, 70 lois ne sont pas en faveur des produits de la nation. On souhaite que ce congrès puisse produire des percées dans la solution de l'économie de la nation à travers le renforcement du marché des produits locaux. Concernant le congrès, j'espère qu'il y a une percée à la fois structurellement et culturellement. Nous voulons voir les enfants indonésiens devenir des acteurs économiques dans leur propre pays. La campagne du mouvement Acheter l'Indonésie a été faite dans dizaines de régions en Indonésie. Les campus, les écoles islamiques ou pesantren et les organismes communautaires. Dans l'exposition à Châtelet-Indonésie, il a été exposé une variété de produits de la nation, entre autres les avions turbopop R80, l'industrie de l'agriculture, les produits cosmétiques et de la nourriture. Le congrès et l'exposition à Châtelet-Indonésie ont également une variété de programmes visant à renforcer et améliorer la qualité des micro, petites et moyennes entreprises à travers, entre autres, le séminaire d'affaires, la discussion de table ronde, des récompenses aux autorités locales qui développent l'économie locale. L'Indonésie et l'Allemagne ont établi depuis longtemps de bonnes relations dans divers domaines, tels que la politique, l'économie, l'éducation, la culture et le commerce. La coopération continue à être élargie à d'autres domaines. L'un des domaines de la coopération à développer par les deux pays est la coopération de sécurité avec la création du Conseil de sécurité. Il a été transmis par l'ambassadeur adjoint de l'Allemagne à l'Indonésie, Hendrik Berkeling, dans son discours lors de la célébration de 26e ans de la journée de réunification allemande à Jakarta, lundi le 3 octobre 2016. Nous croyons que le rôle politique de l'Indonésie dans la région et de sa grande contribution à la mission ou opération de l'ONU à travers le monde est le candidat très fort. Nous voulons tout à coup coopérer à proximité dans le Conseil de sécurité. L'unification de la République démocratique allemande orientale et la République fédérale de l'Allemagne occidentale est célébrée chaque année le 3 octobre. L'ambassadeur adjoint Hendrik Berkeling a également dit à ce moment « Il n'y a plus Hitler, mais l'Allemagne est confrontée à de nouveaux défis liés à la sécurité, notamment les problèmes de réfugiés, qui sont aussi un problème commun, notamment pour les pays de la région européenne. » Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Deux jeunes chercheurs provenant de 28 pays se sont réunis dans la ville de Bogor, Java West, mardi dans une conférence internationale du Centre international d'études et de recherche des forêts. Ils ont discuté des questions de l'environnement et des forêts, ainsi que les politiques gouvernementales fondées sur la science et sociale. La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya Bakar, a ouvert la conférence impliquant l'Institut de l'Agriculture de Bogor, ou IPB, et George August University of Göttingen, en Allemagne, comme un organisateur. Selon Siti Nurbaya Bakar, la conférence est très pertinente avec les efforts du gouvernement indonésien de se préparer une politique sur l'environnement et la foresterie qui est liée à l'homme. Et elle a ajouté, le gouvernement indonésien s'efforce la gestion des forêts et de l'environnement qui n'est pas seulement lié à l'État, mais l'État lié aux citoyens et vice-versa. Associé à la politique forestière, a-t-elle ajouté, l'Indonésie a le défi, à savoir la gestion durable de l'environnement. Le batik est capable d'être un outil pour unir la nation et de renforcer la République unitaire d'Indonésie, a déclaré le ministre de Coopératives et des PME, M. Puspayoga à Pekalongan, mardi, à la célébration de la 7e journée nationale de batik. Bien que le batik enracine dans la culture japonaise, il devient la culture indonésienne et produit dans chaque province et utilisé dans la vie quotidienne. Selon M. Puspayoga, le batik est devenu quelque chose d'extraordinaire qui renforce NKRI. Pour améliorer le bien-être des producteurs du batik, Puspayoga encourage toutes les parties à faire plus d'événements et d'expositions sur le thème batik dans divers endroits, de Sabang jusqu'à Merauke. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Controverse auteur de Duterte ». La question récente aux Philippines et le plan de coup d'État pour renverser le président Rodrigo Duterte. Le militaire, initialement, ne sait pas les rumeurs. Mais le porte-parole militaire, le général de brigade, Restituto Padilla, a déclaré que le militaire répond sérieusement à cette question. Le secrétaire de cabinet, Leoncio Efasco, a déclaré cette question le samedi 10 octobre sur la possibilité d'un coup d'État pour Duterte. Selon Efasco, il y a des partis qui n'aiment pas Duterte, notamment les trafiquants de stupéfiants et la faction militaire qui est en colère à cause des relations militaires avec les États-Unis qui se distancient. Ce qui a été livré par Efasco lié à la déclaration du président Duterte le dimanche qu'il a l'intention d'expulser les troupes américaines des Philippines. Il y a une hypothèse. Duterte se sentait dégradé par les États-Unis et prévoit d'annuler la coopération bilatérale de défense avec les États-Unis, à savoir le renforcement accord de coopération de défense signé par l'ancien président Benigno Aquino. Dans l'accord, les Philippines donnent accès à l'armée américaine pour compenser le rôle de l'armée chinoise dans la mer de Chine méridionale. Les Philippines et l'Amérique sont des amis proches et les alliés. Les Philippines et l'Amérique sont un ami et allié proche, mais Duterte menace souvent pour mettre fin à la relation avec les États-Unis et se rapproche de la Chine et de la Russie. La tension non seulement avec les militaires, Duterte doit aussi faire face à la mafia de la drogue qui est tout à fait ancrée dans la communauté. Dans un communiqué, Duterte sentit obligé de tuer des millions de toxicomanes, même se comparer au dictateur allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler. Duterte n'a pas hésité à faire la guerre contre les auteurs de trafic de stupéfiants. Le même jour, une déclaration au sujet de la reposée militaire américaine, Duterte a présenté ses excuses pour avoir causé la controverse en comparant à Hitler, qui ont été faites par Duterte contre les auteurs de crimes de stupéfiants est une manifestation de sa promesse pendant la campagne d'éradication de la drogue. Duterte ensuite a facilement remporté l'élection générale aux Philippines. Depuis son arrivée au pouvoir le juin dernier, plus de 3000 personnes sont mortes en raison des opérations anti-narcotiques. 1200 personnes sont abattues par la police. Les autres ont été tuées par une personne inconnue. Au Parlement, Duterte, face aux accusations d'avoir commis des violences contre les trafiquants. En conséquence, certains politiciens sont jetés de leur siège au Parlement. Le monde, y compris l'Indonésie, sont d'accord sur l'action décisive pour les trafiquants de stupéfiants, d'une manière qui justifie, selon les règles du pays concerné ou généralement dans le monde international. L'Indonésie ne veut pas intervenir dans la question de la coopération militaire philippine avec d'autres pays, mais comme un ami des pays de l'ASEAN, l'Indonésie a exprimé sa gratitude parce que, directement ou indirectement, le gouvernement Duterte a aidé à libérer les marins indonésiens qui ont été pris en otage par des hommes armés Abu Sayyaf récemment. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, bonsoir. Nous continuons notre programme avec l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'armée nationale indonésienne. L'armée nationale indonésienne, ou TNI, née dans la lutte pour maintenir l'indépendance de la nation indonésienne de la menace néerlandaise qui a des ambitions à coloniser l'Indonésie à travers la force des armes. TNI est en développement de l'organisation provenant de l'Agence de sécurité du peuple, BKR, formée le 22 août 1945. Ensuite, par le décret gouvernemental en date du 5 octobre 1945, BKR transformait l'armée sécurité du peuple TRI et de fixer l'agencement conforme à la base militaire internationale transformée en armée de la République d'Indonésie. Pour unir deux forces armées, à savoir l'armée de la République d'Indonésie, TRI, comme soldats réguliers et les organes de la lutte du peuple, le 3 juin 1947, le président approuve l'établissement de TNI. En 1962, TNI avait changé à nouveau son nom aux forces armées de la République d'Indonésie, ABRI. Le changement de nom est causé par l'unification des organisations des forces armées et la police dans une seule commande. Post-réforme, le nom ABRI a changé de nouveau dans l'armée nationale indonésienne. Par conséquent, chaque date du 5 octobre est toujours célébrée comme la formation de l'armée nationale indonésienne, TNI, même si cette date est la date de la formation de l'armée de sécurité du peuple. L'autre information est sur la Journée mondiale des enseignants. La Journée mondiale des enseignants est une journée internationale célébrée le 5 octobre et ayant pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde. Organisée chaque année par l'UNESCO depuis 1994, elle commémore la signature de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant signée le 5 octobre 1966 par cette organisation et l'OIT, ainsi que depuis plusieurs années, la signature de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, signé le 11 novembre 1997. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « Sulawesi occidental est devenu officiellement une province de la République d'Indonésie ». La province de Sulawesi occidental, avec en capitale de Mamuju, est la 33e province indonésienne le 5 octobre 2004 par la loi numéro 26 de 2004. La province était composée de 5 régions, à savoir le nord de Mamuju, Mamuju, Majene, Polewali Mandar et Mamasa. La superficie totale de la province est 16 937,18 km, une population d'environ 1,070,475 habitants, avec la composition de la population de 80% des agriculteurs et 7,5% des pêcheurs. La province est située sur la piste triangulaire du sud de Sulawesi, Sulawesi central et l'est de Kalimantan. Elle est bordée au nord par celle de Sulawesi central, à l'est par celle de Sulawesi du sud, au sud par celle de Sulawesi du sud et à l'ouest par le détroit de Makassar et l'est de Kalimantan. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, bonsoir. Voici donc la mise au point sur l'environnement ayant pour le titre « La gestion de la réserve de biosphère est une preuve de développement durable ». La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP-Marsudi, a déclaré que la gestion des réserves de biosphère en Indonésie était la preuve de l'engagement du gouvernement à réaliser le développement durable qui est bénéfique pour les personnes. Cela a été déclaré par Mme Retno Marsudi quand elle a reçu l'ambassadeur d'Indonésie pour la France, Andorra et Monaco, en tant également le représentant permanent auprès de l'UNESCO, l'ambassadeur Hotman Raja Panjaitan, à la cérémonie de présentation du certificat L'homme et la biosphère de l'UNESCO au sein du ministère des Affaires étrangères à Jakarta lundi. Ce certificat est pour Blambangan en province de Java-Est. Blambangan, qui est situé dans 4 districts, à savoir Banyuwangi, Jember, Bondowoso et Situbondo. Ce site comprend 3 parcs nationaux, à savoir Alasporo, Baluran et Meru Betiri, ainsi qu'une réserve naturelle, Kawah Ijen. Blambangan est désigné comme la réserve de biosphère et est reconnu comme l'un des membres du réseau d'une réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. La réserve de la biosphère Blambangan se compose des écosystèmes terrestres et marins avec le panorama, la savane et les différents types de forêts. La reconnaissance a été donnée lors de la 28e réunion du Conseil international de coordination du programme L'homme et la biosphère tenue à Lima au Pérou en mars 2016. La ministre Retno évalue la détermination de Blambangan comme une réserve de biosphère indique que Blambangan a le potentiel éligible à définir comme la zone du développement durable. Selon Mme Retno Marsudi, la détermination Blambangan comme la 11e réserve mondiale de la biosphère montre la reconnaissance du monde sur les ressources naturelles de l'Indonésie qui doivent être protégées. Le programme L'homme et la biosphère est l'un des programmes de l'UNESCO qui a été lancé en 1971 en tant que forum de coopération intergouvernementale pour améliorer la relation entre les humains et l'environnement sur la base de la science interdisciplinaire. L'homme et la biosphère visent à encourager le développement économique qui prend en compte les aspects de la durabilité environnementale. À l'heure actuelle, il y a 669 sites L'homme et la biosphère dans le monde et 11 d'entre eux se trouvent en Indonésie. Madame Retno Marsudi a affirmé que la livraison des certificats L'homme et la biosphère n'est pas la fin des efforts du gouvernement pour protéger les richesses naturelles de l'Indonésie. La ministre Retno espère qu'avec la fusion de Blambangan dans un réseau de réserve mondiale de la biosphère apportera des avantages pour la conservation, la réserve et de soutenir le développement durable qui profitera à la communauté environnante. Chers amis, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir.
La diplomatie économique est l'une des priorités de la politique étrangère de l'Indonésie, exécutée à ce moment, surtout par le ministère indonésien des Affaires étrangères. La diplomatie économique a souligné toutes les activités liées au commerce, le tourisme et l'investissement, ou TTI. Cela a été transmis par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP-Marsudi, dans son discours à l'ouverture de la réunion de diplomatie et des chambres de commerce. Maintenir la confiance, renforcement du partenariat, mardi le 4 octobre 2016 à Jakarta.
Economic diplomacy is one of the priorities of Indonesia foreign policy.
La diplomatie économique est l'une des priorités de la politique étrangère indonésienne, une partie de 132 missions indonésiennes à l'étranger, qui engage à faciliter les hommes d'affaires pour faire des affaires en Indonésie. Les mesures prises par le ministère des Affaires étrangères liées à la diplomatie économique et d'assigner tout pour donner rapidement la réponse à toutes les questions ou des choses liées à TTI. La ministre Retno a également déclaré que pendant les 2 dernières années, le développement économique dans ce pays était prometteur. L'Indonésie est devenue la plus grande économie en Asie du Sud-Est, avec une croissance d'environ 5% par an et le nombre de la classe moyenne continue d'augmenter. Le Congrès a choisi l'Indonésie qui a tenu du 3 au 5 octobre 2016 à Jakarta invite tous les gens indonésiens à utiliser des produits nationaux. Le chef du mouvement a choisi l'Indonésie, Happy Trenggono, dans une conférence de presse tenue le lundi 3 octobre à Jakarta, a déclaré que culturellement, la mentalité du peuple indonésien n'habitue pas d'acheter des produits nationaux. Structurellement, 70 lois ne sont pas en faveur des produits de la nation. On souhaite que ce congrès puisse produire des percées dans la solution de l'économie de la nation à travers le renforcement du marché des produits locaux. Concernant le congrès, j'espère qu'il y a une percée à la fois structurellement et culturellement. Nous voulons voir les enfants indonésiens devenir des acteurs économiques dans leur propre pays. La campagne du mouvement Acheter l'Indonésie a été faite dans dizaines de régions en Indonésie. Les campus, les écoles islamiques ou pesantren et les organismes communautaires. Dans l'exposition Acheter l'Indonésie, il a été exposé une variété de produits de la nation, entre autres les avions turbopop R80, l'industrie de l'agriculture, les produits cosmétiques et de la nourriture. Le congrès et l'exposition Acheter l'Indonésie ont également une variété de programmes visant à renforcer et améliorer la qualité des micro, petites et moyennes entreprises à travers, entre autres, le séminaire d'affaires, la discussion de tables rondes, des récompenses aux autorités locales qui développent l'économie locale. L'Indonésie et l'Allemagne ont établi depuis longtemps des bonnes relations dans divers domaines, tels que la politique, l'économie, l'éducation, la culture et le commerce. La coopération continue à être élargie à d'autres domaines. L'un des domaines de la coopération à développer par les deux pays est la coopération de sécurité avec la création du Conseil de sécurité. Il a été transmis par l'ambassadeur adjoint de l'Allemagne à l'Indonésie, Hendrik Berkeling, dans son discours lors de la célébration de 26e ans de la journée de réunification allemande à Jakarta, lundi le 3 octobre 2016. Nous croyons que le rôle politique de l'Indonésie dans la région et de sa grande contribution à la mission ou opération de l'ONU à travers le monde est le candidat très fort. Nous voulons tout à coup coopérer à proximité dans le Conseil de sécurité. L'unification de la République démocratique allemande orientale et la République fédérale de l'Allemagne occidentale est célébrée chaque année le 3 octobre. L'ambassadeur adjoint Hendrik Berkeling a également dit à ce moment « Il n'y a plus Hitler, mais l'Allemagne est confrontée à de nouveaux défis liés à la sécurité, notamment les problèmes de réfugiés, qui sont aussi un problème commun, notamment pour les pays de la région européenne. » Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Deux jeunes chercheurs provenant de 28 pays se sont réunis dans la ville de Bogor, Jawa Barat, mardi dans une conférence internationale du Centre international d'études et de recherche des forêts. Ils ont discuté des questions de l'environnement et des forêts, ainsi que les politiques gouvernementales fondées sur la science et sociale. La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya Bakar, a ouvert la conférence impliquant l'Institut de l'Agriculture de Bogor, ou IPB, et George August University of Göttingen, en Allemagne, comme un organisateur. Selon Siti Nurbaya Bakar, la conférence est très pertinente avec les efforts du gouvernement indonésien de se préparer une politique sur l'environnement et la foresterie qui est liée à l'homme. Et elle a ajouté, le gouvernement indonésien s'est forcé la gestion des forêts et de l'environnement, qui n'est pas seulement lié à l'État, mais l'État lié aux citoyens et vice-versa. Associé à la politique forestière, a-t-elle ajouté, l'Indonésie a le défi, à savoir la gestion durable de l'environnement. Le batik est capable d'être un outil pour unir la nation et de renforcer la République unitaire d'Indonésie, a déclaré le ministre de Coopératives et des PME, M. Puspayoga à Pekalongan, mardi, à la célébration de la 7e journée nationale de batik. Bien que le batik enracine dans la culture japonaise, il devient la culture indonésienne et produit dans chaque province et utilisé dans la vie quotidienne. Selon M. Puspayoga, le batik est devenu quelque chose d'extraordinaire qui renforce NKRI. Pour améliorer le bien-être des producteurs du batik, Puspayoga encourage toutes les parties à faire plus d'événements et d'expositions sur le thème batik dans divers endroits, de Sabang jusqu'à Merauke. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour l'heure suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci à vous d'écouter notre antenne La Voix de l'Indonésie. Dans l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui, nous vous présentons le plat typique de Surabaya, saté ou satay klopo. Alors, soyez toujours avec nous, La Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre les zones courtes, vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, la visite à une région n'est pas complète sans goûter le plat typique de cette région. Habituellement, chaque région a plus d'un type de cuisine typique. Comme la ville de Surabaya, qui est située dans la province de Java East, a beaucoup de plats distinctifs. Cependant, à partir de certains plats typiques appartenant à Surabaya, il y avait un plat typique légendaire nommé saté ou satay de klopo. Saté est un aliment fabriqué à partir de petits morceaux de viande piqués avec une brochette, puis grillés à l'aide de charbon de bois. Le satay klopo est même que le satay en général. La différence est dans les ingrédients. Habituellement, après avoir coupé la viande, les morceaux de viande sont piqués directement avec les brochettes. C'est différent avec le satay klopo. Comme son nom, klopo, qui signifie kelapa ou en français la noix de coco, la viande pour le satay klopo est d'abord mélangée avec des épices et la noix de coco râpée qui est torréfiée. Les ingrédients pour le satay klopo sont l'oignon, le curcuma, la coriandre, le sel et le sucre. Après le mélange des épices et la noix de coco râpée torréfiée, la viande pour le satay klopo est formée rond et piquée avec la brochette et puis grillée. La viande pour le satay klopo peut être choisie selon le goût. Il y avait plusieurs choix de viande qui sont offerts, entre autres la viande bovine, le poulet, les crevettes, la moelle et l'intestin. Le satay klopo est servi avec la sauce aux arachides comme satay en général, mais la sauce aux arachides pour le satay klopo est plus douce et plus savoureuse. Le saté clopot avec la sauce aux arachides savoureuse est mélangé avec du riz ou longtemps, ou en français, le riz préparé dans des feuilles de bananier qui est semé avec surundeng ou la noix de coco râpée torréfiée sur ce plat. Toute la personne qui le mange n'oublie jamais la délicatesse du saté clopot. Le prix d'une portion de saté clopot est seulement 30 000 à 35 000 rupiah, y compris le riz et la boisson. Si vous êtes à Surabaya, ne pas oublier de goûter ce plat typique de Surabaya. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir avec pour titre « Le saté clopot de Surabaya ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À demain!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler l'indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est Membuka rekening bank, ou en français, ouvrir un compte bancaire. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi.
Membuka, membuka.
En français, ouvrir.
Rekening bank. Rekening bank.
En français, compte bancaire.
Selamat pagi. Selamat pagi.
En français, bonjour.
Silahkan. Silahkan.
En français, s'il vous plaît.
Mengambil. Mengambil.
En français, prendre.
Nomor 15. Nomor 15.
En français, numéro 15.
Loket 2. Loket 2.
En français, compteur 2.
Membuka rekening baru. Membuka rekening baru.
En français, ouvrir un nouveau compte.
Membawa. Membawa.
En français, porter.
Kartu identitas. Kartu identitas.
En français, carte d'identité.
Surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi.
En français, permis de conduire.
Isi formulir. Isi formulir.
En français, remplir ce formulaire.
Sesuai dengan data. Sesuai dengan data.
En français, votre identification.
Tanda pengenal Anda. Tanda pengenal Anda.
En français, votre identification.
Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Membuka rekening bank, ou en français, ouvrir un compte bancaire. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre l'agent A, l'agent B et Aris. A. Selamat pagi. Silakan mengambil nomor dan silakan antri. Selamat pagi. Silakan mengambil nomor dan silakan antri.
Bonjour. S'il vous plaît, prendre un numéro et aller dans la queue. Nomor 15, silakan ke loket 2. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Nomor 15, silakan ke loket 2. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?
Numéro 15. Au compteur 2, s'il vous plaît. Bonjour. Que puis-je aider?
Saya ingin membuka rekening baru. Saya ingin membuka rekening baru.
Je veux ouvrir un nouveau compte. B.
Apakah Anda membawa kartu identitas? Apakah Anda membawa kartu identitas?
Oui, je veux votre carte d'identité.
Maaf, saya tidak membawa kartu penduduk. Apakah boleh menggunakan surat izin mengemudi? Maaf, saya tidak membawa kartu penduduk. Apakah boleh menggunakan surat izin mengemudi?
Désolé, je ne la porte pas. Est-ce que je peux utiliser un permis de conduire?
Silakan isi formulir ini sesuai dengan data pada tanda pengenal Anda. Silakan isi formulir ini sesuai dengan data pada tanda pengenal Anda.
Remplissez ce formulaire conformément aux données de votre permis, s'il vous plaît.
Voilà l'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui dont le sujet est membuka rekening bank. Ou en français, ouvrir un compte bancaire. Au revoir.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ce.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse senior, Hermi Kulit, qui a commencé à exister dans l'industrie de musique jazz en Indonésie à l'ère 70. Bon, chers auditeurs, pour ouvrir notre rencontre, voici Hermi Kulit avec sa chanson intitulée « Kasi ». Bonne écoute. Ermi Kulit, dont le nom complet Ermi Mariam Nurjana Kulit, est née à Manado le 13 mai 1955. Elle est la chanteuse de jazz indonésienne. Ermi a également surnommé Salena Jones de l'Indonésie. Elle est célébrée grâce à la chanson intitulée Kasih et Pasrah. Toutes les deux sont composées par Richard Kyoto. Depuis le début de sa carrière en 1973, Ermi a lancé plus de 20 albums. Depuis l'enfance, Ermi a montré son talent pour chanter. À un jeune âge, Ermi a souvent chanté aux fêtes d'anniversaire et de mariage des parents à Manado. Mais la performance professionnelle a été commencée lorsqu'elle était à l'école secondaire de la classe 3 après sa performance avec les bandes d'accompagnement comme Meliska, Nada Yuda, de Logis et de Nos en ville de Manado et ses environs. Bon, série de temps, écoutons maintenant la chanson d'Ermi Kulit intitulée « Bonne écoute ». Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse, Hermi Kulit. Hermi Kulit est connue par les amateurs de musique indonésienne avec le surnom de Dame de Jazz. Après être vite de sortir l'album, Hermi réanime le monde de la musique indonésienne en lançant l'album intitulé Timeless Hits Série E qui a coïncidé avec son 60e anniversaire. Dans cet album, il y a 13 chansons. L'une d'elles est une nouvelle chanson composée par un musicien de la ville Malang intitulée Masih Ada Lagi et le reste est les vieilles chansons qui sont chantées à nouveau. Avec la sortie de nouveau album, elle espère de guérir le mal des fans de diverses régions indonésiennes envers les chansons de jazz. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les chansons suivantes d'Hermi Kulit intitulées Ku Harus Bagaimana et Langkahku. Bonne écoute et au revoir. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.